La loi de fuite par Alfred Edward Woodley Mason. Je voyageais toute une nuit sur le fleuve Magdalena, à destination de Calamar, où je devais prendre le train pour Carthagène. Sur le steamer qui nous portait, je dînais avec mon ami George Pitcham, consul des États-Unis à Barranquilla. La conversation étant venue à tomber sur les républiques de l'Amérique centrale, dont il connaissait pertinemment quelques-unes, pour y avoir exercé ses fonctions, il me conta l'histoire suivante. Je la rapporte aussi fidèlement que me le permet ma mémoire, dans les termes mêmes dont il se servit. Le pays de l'Ensenada possède tous les climats utiles, le tropical, le subtropical et le tempéré. Il est donc, tout à la fois, une prairie, un champ de blé, un verger et une plantation. Il a reçu, dans la répartition universelle, plus que sa part de minéraux, beaucoup plus que sa part de métaux, ce qui en fait, par surcroît, un gisement pétrolifère et une mine. Il jouit d'un régime pluvieux accommodant comme nul autre. Il a un chapelet de grandes villes, une constitution et un code qui laissent loin en arrière tous les traités d'éducation morale, une aviation militaire où ne manquent pas les as, fait d'autant plus notable qu'il n'a jamais été engagé dans une guerre. Il y a des boy scouts entraînés dans l'esprit même du pays, puisqu'un des exercices de leur parade, vraiment original, et dont ils s'acquittent à merveille, est l'exécution d'un camarade pour crime de trahison. En dépit de tout cela, l'Ensenada nourrit dans son sein quelques intellectuels d'humeur épineuse. Ai-je besoin de vous dire que leurs noms sont notés d'infamie? Mon ami Anton de Hoyos, propriétaire et directeur du journal La Libertad, titre funeste, se trouvait être du nombre. Aussi ne fus-je pas surpris quand un soir, je reçus de lui un billet très urgent, écrit d'une main mal assurée. À mon arrivée, sur le vaste paseo où il habitait, je vis sa maison fermée de la base au faîte, tant on s'y défendait contre la surveillance. Je sonnai, la porte s'ouvrit à l'instant, quelqu'un m'attendait par derrière. Le vestibule était noir comme un four. Sans le grincement des gonds, je n'aurais pas remarqué qu'elle se fût ouverte. « Voulez-vous entrer, s'il vous plaît, Seigneur Pitcham ?» La voix venait de l'ombre, basse et ferme, mais désolée. Je la reconnus, sans quoi, vous le pensez bien, je ne me serais avancé qu'avec prudence. C'était la voix de Concepcion, la vieille nourrice d'Anton, qui, depuis le veuvage de mon ami, menait son personnel à la trique. Je l'entendis refermer la porte à clé, pousser le verrou, raccrocher la chaîne, puis, traînant le pied, elle me précéda dans le corridor. Et tout au fond, derrière l'escalier, elle tourna le bouton d'une petite lampe électrique. J'eus la sottise de demander « Qu'y a-t-il de grave ?» Concepcion était une femme qui, à tout moment, sans le moindre propos, jetait les hauts cris en y mêlant le plus étrange vocabulaire. Cette fois, elle resta muette et son silence avait quelque chose de terrible. Elle brandit les deux mains au-dessus de sa tête et, malgré la faible lueur qui éclairait l'escalier, je crus voir des pleurs noyer les rides de sa figure. Pesamment, elle gravit les marches à ma suite. Il ne me souvient pas d'avoir jamais eu à ce point la sensation d'une catastrophe. Cette grande maison plongée dans le noir me faisait le ridicule effet de souffrir comme une créature vivante. Et j'étais certain qu'à l'exception d'Anton, de la gouvernante et de moi, il n'y restait plus personne. Concepcion m'introduisit dans une belle chambre peinte du premier étage et repoussa doucement la porte. La pièce était en façade sur le paseo. Bien qu'une seule lampe y fût allumée au chevet du lit, les volets étaient clos, les rideaux tirés pour qu'il n'en filtrât au dehors aucune lumière. Il y faisait une chaleur suffocante. J'aperçus Hoyos dans un grand lit de bois satiné. Il avait le visage en feu, de grosses gouttes de sueur perlaient à son front, ses yeux reluisaient de fièvre ou de crainte, peut-être. « Vous êtes malade, Anton ?» lui dis-je, en faisant le tour du lit pour m'approcher du chevet. Et je me méprisais, une fois de plus, pour la niaiserie de mes paroles. Tout ce que je disais était si peu au niveau des circonstances. « Rien de sérieux, » fit-il, « un petit refroidissement avec une pointe de fièvre, mais je suis suffisamment en état de voyager. » Drôle de phrase chez un malade. D'où venait, à mon ami, un si pressant désir de voyage, et pourquoi tenait-il tant à me convaincre qu'il était en état de voyager? Je lui pris la main et m'assis sur la chaise placée d'avance pour moi près du lit. Je ne me dissimulais pas que si je rouvrais la bouche, ce serait pour lâcher encore quelques lieux comme un stupide. Je gardai donc le silence. Mais Anton n'avait pas besoin qu'on le priât de parler. Le gouvernement, dit-il, a interdit aujourd'hui même la Libertad. Il est positif que dans les derniers temps, la Libertad n'avait admiré ni la capacité ni l'incorruptibilité gouvernementale. Oh, pour un jour ou deux, sans doute, histoire de vous donner une leçon, fis-je d'un ton dégagé. Non, me répondit mon ami, l'interdiction n'a rien de temporaire. Et je ne pus feindre davantage de prendre son malaise à la légère, car c'était la joie de sa vie que de diriger son journal, d'en étendre l'influence, d'en exalter l'indépendance, d'y parader comme sur une scène imaginaire, en armure étincelante, tandis que tremble derrière lui la tourbe méchante de ses ennemis. « Voyons, voyons, protestai-je, ce serait là une mesure bien énergique, même de la part de ces messieurs. » Anton de Hoyos hocha la tête. « Je m'y attendais depuis longtemps, » répliqua-t-il avec une indifférence qui m'ébahit d'abord et qui ensuite m'angoissa. Il fallait qu'un danger très sérieux le menaçât pour qu'il fît si bon marché de sa bataille quotidienne. S'il n'y avait que l'interdiction du journal, commença-t-il. Et soudain il frémit jusqu'à la plante des pieds. Malgré lui, de petits sanglots l'étranglèrent. Je n'avais été de ma vie saisi ni troublé à ce point. Jamais je n'avais vu terreur si nue, si abjecte. Cependant il finit par se reprendre, et d'un geste automatique, passant et repassant sur son front le revers de sa main. J'ai un ami au gouvernement. Je sais par lui que demain le président démentira ce que j'écris sur les actes de corruption relatifs aux mines et fera connaître qu'il m'envoie là-bas sous la protection d'une escorte afin que je contrôle par moi-même la vérité. Je ne fus pas maître de moi, je me renversais sur mon siège. Oui, sous la protection d'une escorte, vous savez ce que cela veut dire. Et pour que je ne visse pas le tremblement de ses lèvres, Anton détourna la tête sur son oreiller. La ley de fuga, murmurai-je. Oui, la loi expédiente et simple qui donnait à toute escorte le droit de tuer son prisonnier, quel qu'il fût, sous le prétexte qu'il avait tenté de s'enfuir. Supposez qu'un procès public s'annonçât qui provoquerait de fâcheux commentaires. L'on transférait le prisonnier de sa prison dans une autre. En cours de route, la loi de fuite avait beau jeu. Ainsi, l'on évitait les petites révélations désobligeantes, et le prisonnier, en essayant de se soustraire à la justice, démontrait lui-même sa culpabilité. Je m'expliquais maintenant qu'Anton de Hoyos frissonna dans son lit. Dépêché, c'était le mot, à travers les montagnes pour y vérifier ses allégations, il prouverait par sa fuite qu'il n'osait affronter l'évidence contraire, et la loi l'aurait protégé de façon qu'à l'avenir il cessât de nous causer des inquiétudes. Je ne trouvais en tout cela, pour Anton de Hoyos, aucun motif d'espoir. « Il en est un !» s'écria-t-il, comme si, avec une sagacité prodigieuse, il eût pénétré ma pensée. « Il en est un, et rien qu'un !» Il se penchait sur un coude, ses yeux fixés anxieusement sur les miens. « On ignore que je suis informé de ce qui se prépare. On ne bougera pas avant la proclamation du président. Or, l'express pour la frontière part demain matin à 5 heures. « En effet, dis-je, c'est demain dimanche. » Il n'y avait qu'un train par semaine qui accomplit le trajet total en 2 jours, sans arrêt dépassant une demi-heure. « Mais il manque à mon passeport le visa pour votre pays. » Continua mon ami avec la timidité d'un homme qui demande une faveur insigne. « N'est-ce que cela ? » me récriai-je. « Donnez-moi votre passeport. Je vais à mon bureau y apposer le visa, et je vous le rapporte dans la minute, mais... » Je m'arrêtai. Anton de Hoyos était retombé sur ses oreillers. On lui dit, à son air, débarrassé de tous les soucis du monde. Pour moi, je ne voyais pas les choses sous le même aspect, et sans doute le lut-il sur mon visage. « Vous pensez à la question d'argent ? » me demanda-t-il. « Quant à cela, ne vous mettez point martel en tête. J'ai depuis quelques années déposé des fonds aux États-Unis. Assez pour monter une affaire d'imprimerie à Los Angeles. Je compte, en outre, donner des leçons d'espagnol et pouvoir, le moment venu, lancer un petit journal. » Là-dessus, il partit gaiement dans les spéculations, fit 1000 projets, parla de son âge, qui n'était que de 43 ans, bref, me peignit son avenir sous des couleurs roses. Je n'écoutais que d'une oreille, et l'événement prouva que j'avais raison, ses imaginations chimériques. Ce n'était pas, comme il le croyait, la question d'argent qui me préoccupait, je me disais. Il y a 2 jours à passer dans un train avant d'atteindre la frontière. Demain matin, l'on s'apercevra de son départ. Le soir même ou le lendemain, on le cueillera dans son train, et pour une fois, la loi de fuite aura véritablement sévi contre un fugitif. Je ne pouvais m'en expliquer si crûment avec Antón de Hoyos. J'usais de périphrases. Il ne s'émut pas des possibilités que je lui faisais entrevoir. Du moment, dit-il, que j'aurais pu gagner la gare, m'installer dans le train, et que mon passeport dans la poche avec votre visa, j'aurais laissé à 1 ou 2 milles derrière moi la ville d'Ensenada, fini tout sujet de crainte. Et me tapant sur le bras, Paul Taylor me le garantit. « Vous le garantit ? » grommelai-je, un peu trop rudement sans doute. « Bon, à vous de me le dire. En quoi Paul Taylor peut-il vous garantir quelque chose ?» Antón sourit avec indulgence. « Vous et moi qui ne suivons que les sentiers battus, comment ne serions-nous pas forcés d'errer quand dans ces pays toujours sens dessus-dessous, il s'agit de prévoir l'événement vraisemblable ?» Mais Antón de Hoyos savait très bien ce qu'il disait. La seule personne qui, dans la ville d'Ensenada, fut en mesure de vous procurer un salon réservé dans le Pullman réservé de l'Express, en vous garantissant que, durant tout le parcours, vous seriez traité comme un prince de maison royale. Ce n'était pas le chef de gare, ni l'agent du bureau de location, ni même le ministre des chemins de fer. C'était uniquement Paul Taylor, le portier nègre du club américain. D'abord contrôleur d'un Pullman sur les chemins de fer de Santa Fe, puis descendu au sud et passé sur les lignes d'état de l'Ensenada. Si, aujourd'hui, sortant de sa loge au club américain, il vous disait « Oui, monsieur, ça marche », ou bien « C'était qu'en effet, ça marchait », sans qu'au surplus il vous en coûtât trop cher, cela valait toujours son prix. Sous ce rapport, je n'avais rien à apprendre. Mais garantir la fuite d'un homme condamné à mort par mesure administrative, c'était assumer une responsabilité un peu forte. Pourtant, Antón de Hoyos s'était satisfait. Je pris donc mon passeport, j'allais y apposer mon visa, et m'assurant que je n'étais pas suivi, je le lui rapportai à son domicile. Antón, avec une flamme d'exaltation dans les yeux, me pressa sur sa poitrine comme un héros de théâtre y presserait un ordre de sursis à l'ombre de la potence. Si Antón était satisfait, en revanche, moi, je ne l'étais pas. Le mot de garantie me restait collé à la gorge. C'est un mot ridicule. On vous le jette de droite et de gauche, et vous le gobez, n'est-ce pas? Est-ce un bon whisky? Demandez-vous au marchand. Et il vous regarde avec des yeux ronds, comme s'il avait affaire à un idiot. Mais voyons, cela va de soi, il est garanti. Instruit par l'expérience, vous demandez au boutiquier qui vous présente une montre, marche-t-elle? Si elle marche, vous répond-il, stupéfait. Mais les montres de cette marque sont toutes garanties. Et votre whisky est détestable, et dès le second jour, votre montre refuse obstinément de marcher. Je quittai fort mécontent la maison de Paseo. Descendis en ville et m'arrêtai au club américain. Paul Taylor, le nègre, se carrait à l'entrée de toute l'ampleur de son torse. « Paul, lui dis-je à voix basse, le seigneur Antón de Hoyos est de mes amis. Comprenez-moi bien, que dois-je croire ?» Le visage de Paul devint un immense sourire sur deux rangées de dents éclatantes. « Tout est parfaitement organisé, monsieur, me répondit-il. Je me sentis un peu rassuré. Du moins, le nègre ne parlait pas de garantie. » Le train fut visité 2 fois entre la gare de départ et la frontière, mais l'aide-cuisinier, qui était tout bonnement Antón de Hoyos, ne fut pas examiné de trop près. Sans doute y avait-il mis le prix raisonnable. Il s'établit à Los Angeles, d'où il m'écrivit une lettre qui débordait de gratitude. Toutes les belles idées dont il m'avait entretenu, et auxquelles je n'avais guère prêté d'attention, étaient en train de se réaliser magnifiquement. Il était plein d'une confiance où se mêlait, à ce qu'il me sembla, un peu de présomption. Je ne pus m'empêcher de me rappeler l'homme qui, naguère, grelottait dans ses draps de lit. Quant à moi, du vice-consul que j'étais encore, je fus promu consul dans le courant de l'année et comme tel envoyé à Mazagan, la grande ville à cheval sur la frontière. Pour peu qu'on connaisse Mazagan, on imagine combien il peut être lourde et absorbante la charge de consul. La frontière y coupe par le milieu la Calle Ensenada. Et une ville où il n'y a qu'à enjamber une voie de tramway pour changer de pays offre à une certaine catégorie de gens des séductions particulières. La populace d'un continent déferle d'un côté à l'autre sur Mazagan, et j'avais fort à faire, tellement que la troupe du grand opéra dirigée par Charles Landau y jouait déjà depuis 3 semaines sur les 4 que comprend la saison, sans que j'eusse même songé à retenir ma place au théâtre, si passionné que je sois de musique. D'autres, moins passionné que moi, s'était montré moins négligent. Lorsqu'enfin j'allais au bureau de location, je ne trouvais plus qu'un fauteuil disponible, et pour la dernière soirée de gala, pour laquelle on avait sensiblement élevé les prix, le programme comportant une sélection des ouvrages du répertoire et tous les premiers sujets y devant faire leurs adieux au public dans leur meilleur rôle. La place de l'Opéra brillait comme en plein jour sous les feux des grands lampadaires électriques, et les badauds s'y pressaient à ce point, braquant des regards émerveillés sur les portières des autos et des antiques voitures campagnardes, qu'à chaque instant je redoutais de voir se produire un accident grave. Dans la salle, le bruit continu des sièges que rabattaient les arrivants crépitait comme une fusillade. Les femmes ajoutaient à l'éclat des toilettes l'étincellement des bijoux qui les paraient de la tête aux pieds. Les hommes de la génération nouvelle avaient, par exception, consenti à la cravate blanche et au frac. Il régnait cette atmosphère d'attente et d'excitation qui rend un public sociable. On bavardait de toutes parts. Je ne tardais pas de comprendre que le succès de la saison était allé à une jeune chanteuse, Margherita Sabani, qui, la saison précédente, avait débuté dans un petit rôle au Metropolitan de New York et qui, maintenant, essayait ses ailes en tournée dans les grands emplois. Soudain, la rumeur des voix fit trêve. Un grand et beau jeune blond entrait, tout seul, dans l'avant-scène de première galerie. Il déposa son pardessus sur une chaise, son chapeau sur une autre, promena quelques secondes sur l'assistance le regard indifférent d'un lord et finit par s'asseoir d'un air de détachement absolu sur une troisième chaise au milieu de la rangée. Il représentait pour moi le type idéal de l'anglais. Cependant, il n'était pas de nationalité anglaise. Je sus bientôt à quoi m'en tenir là-dessus, grâce aux bavardages qui reprirent plus fort autour de moi après un instant de contrainte. C'est Ignacio. Parbleu, sa présence était certaine. Depuis que la Sabani chante, il n'a pas manqué un seul soir d'occuper tout seul cette loge. Entre elle et lui, c'est la grande passion, mon cher. On chuchote qu'il va l'épouser. Et l'on ne se trompe pas. Le vieux père, à ce qu'on m'affirme, va tout le jour grognant comme un dogue à travers son domaine et jurant qu'il préférait voir son fils couché sans vie à ses pieds. La voix s'éteignit au moment où le chef d'orchestre s'asseyait au pupitre et, par la magie de sa baguette, réduisait le public entier au silence, depuis le péon des galeries supérieures jusqu'aux notables des fauteuils. Mais je n'avais plus rien à apprendre. Ignacio était le fils de Heriberto Reyes, grand propriétaire foncier et millionnaire, qui s'enorgueillissait d'un lignage espagnol resté sans atteinte depuis l'ancêtre aventurier du XVIe siècle. Heriberto avait aujourd'hui 77 ans. Il était vain de sa richesse, fier de son sang, et je croyais l'entendre beugler de colère contre l'aveuglement de son fils. Tout naturellement, sans doute, je fus de cœur et d'âme avec Ignacio dès qu'apparut Margherita Sabani. Bien qu'elle se fît appeler madame, elle n'était qu'une toute jeune fille, élancée, mince, avec un visage aux lignes classiques, mais sauvée de la froideur par un sourire qui creusait ses joues de fossette et par l'aura de bonheur qui l'enveloppait. Elle avait choisi le rôle d'Octave dans Le Chevalier à la Rose, et la scène où Octave offre la rose d'argent à Sophie de la part du baron Hawks. Quand elle descendit en scène, souverainement pimpante et coquette dans son habit de satin blanc et ses souliers à talons rouges, on eût dit que la salle prenait feu. Le public l'attendait, il n'attendait qu'elle, depuis le commencement de la soirée, et il l'accueillit par un hurlement semblable à celui d'une grande vague se brisant sur une grève. Elle montrait une nervosité singulière, tandis que les bravos s'éternisaient, ceux des spectateurs qui étaient, comme moi, proches de l'orchestre, purent voir ses grands yeux nous supplier de la laisser repartir avant que ses forces ne la trahissent. Mais elle n'eut qu'à émettre sa première note pour redevenir maîtresse d'elle-même. Elle faisait corps avec son rôle. Elle avait une de ces voix qui jaillissent, limpides et faciles, comme un chant de merle sur une pelouse par un matin d'été. Elle était ensorcelante. Aussi ne m'étonnais-je pas qu'Ignacio se pencha hors de sa loge, comme s'il n'y était présent que de corps et que son âme fût passée sur la scène. C'était la dernière fois de sa vie que chantait Margherita Sabani. Oui, malgré l'assurance contraire que nous reçûmes d'elle. Car après que le rideau se fut 20 fois relevé, et qu'Ignacio lui-même eut quitté sa loge, rappelée une fois encore, elle tendit les bras vers ses amis, elle leur cria, sur une note de flûte qui domina les acclamations, « Arrivederci !» Puis, se prenant la tête des deux mains, elle s'enfuit vers les coulisses. Je remontai l'escalier tournant qui vient des salles d'orchestre, quand je revis Ignacio. Arrêté à mi-chemin, il attendait devant la petite porte de fer donnant accès au plateau. l'agrément rare d'une soirée semblable n'eût pu que m'être gâté par des propos de café. Je le rapportais donc intact chez moi, dans mon lit. Mais à 3 heures du matin, je fus réveillé de la rue par une sonnerie opiniâtre à ma porte. J'allai regarder à la fenêtre, d'où je distinguais le sommet d'un chapeau haute forme et un bras tendu sur le bouton électrique de l'entrée. « Que désirez-vous » demandai-je. L'homme leva la tête. Il m'était complètement inconnu. Mais à la clarté d'un réverbère, je constatai que sous son pardessus vert, il était en tenue de soirée. « Je suis Charles Landau, » me dit-il. « Le directeur de la troupe d'opéra ?» insistai-je, par ce sot besoin de redondance dont on n'arrive jamais à se défaire. « Oui, je descends à la minute. » Il y avait, dans l'aspect et l'accent de Landau, je ne sais quoi de découragé qui me troubla. J'enfilai un vêtement sur mon pyjama. J'introduisis mon visiteur et le menai dans la bibliothèque où je fis de la lumière. C'était un petit juif replet qui me rappelait vaguement certaines idoles orientales, sauf qu'il manifestait une agitation que les idoles ne connaissent pas. « Margherita Sabani a disparu, » me dit-il, debout, tendant vers moi ses bras courts. Et ses yeux bruns débordaient de larmes. Je ne pus m'empêcher de sourire. Il me souvenait que quelques mois auparavant, j'avais visé le passeport d'Ignacio Reyes. Landau avait sans doute à chercher, pour la suite de sa tournée, une nouvelle première chanteuse. Rien de plus, rien de moins. « Il fallait vous y attendre, » répliquai-je. « Ce n'est probablement pas la première fois que pareille chose vous arrive. Du moins, ils auraient dû vous laisser un mot. C'était d'une élémentaire politesse. « Il ?» s'écria-t-il. « Il ?» Et avec une expression de soulagement incompréhensible. « Alors vous étiez dans le secret, monsieur Pitcham ? Si vous saviez par quelle transe j'ai passé. » Il s'assit, joignit ses petites mains sur sa petite panse. Il avait la mine d'un homme enfin débarrassé d'une molaire importune. « Mon cher monsieur, lui dis-je, vous deviez être à Mazagan, la seule personne ignorante du secret. Les amours de Margherita Sabani et d'Ignacio Reyes, mais c'était le roman de la ville, les voilà partis. Eh bien, rappelons-nous que nous avons été jeunes et laissons-les en paix. » Charles Landau ne fit pas un mouvement, mais toute couleur s'effaça de son visage. Je ne vis plus qu'un masque gris et deux yeux où se reflétait l'horreur. Ignacio Reyes est à cette heure-ci en train de battre Mazagan à la recherche de Margherita. Il n'a point causé avec elle de toute la soirée, il ne l'a vue qu'en scène. Mais moi, j'ai vu Ignacio Reyes qui attendait à la porte de fer, dans la salle. Margherita était déjà partie. Partie, elle n'avait pas eu le temps de partir. Si, allons donc. Une minute avant, elle était sur la scène, en costume de cour XVIIIe siècle, habit brodé d'or, jabot, perruque frisée. Et c'est dans ce costume, dans cet espace d'une minute, qu'elle aurait pu disparaître. Non, protestai-je violemment. Je suis né en Missouri, on ne m'en compte pas, donnez vos preuves. L'impresario donna ses preuves. En quittant la scène, Margherita Sabani avait trouvé son habilleuse qui l'attendait dans la coulisse avec un léger manteau lamé d'argent. Elle avait jeté le manteau sur son épaule, puis gagné précipitamment la sortie du plateau. En face d'elle s'ouvrait un court passage, aboutissant à une double porte battante derrière laquelle il y avait un tout petit vestibule, la niche du concierge et la porte des artistes sur la rue. À sa droite régnait le couloir desservant sa loge. Elle s'y engageait, quand le concierge la prévint qu'Ignacio l'attendait à la porte de la rue et qu'il y avait un mot urgent à lui dire. Elle avait vu Ignacio sortir de la salle une ou deux minutes auparavant. Ému ou plutôt exalté par l'enthousiasme de son auditoire, comment aurait-elle pensé qu'elle n'eût rien à craindre? Elle tourna le dos à sa loge, enfila le passage et franchit la double porte. Sur ces entrefaites, le concierge, Garcia Pardo, traversait la scène pour remettre un billet à un artiste dans la direction opposée à celle des loges. Quand il s'en revint, il trouva l'habilleuse de Margherita à l'intersection du passage et du couloir. Cette femme lui demanda où pouvait être Madame Sabani, puisqu'il n'avait point paru dans sa loge, à quoi il répondit « Dans le vestibule, sans doute, je vais la chercher. » Il poussa les battants mobiles, le vestibule était vide. Il regarda dans la rue et n'aperçut âme qui vive, à l'exception d'un sergent de police. Mais la rue ne tarderait pas d'être envahie par les quémandeurs d'autographes et par la foule de ces gens qui se divertissent à voir de près leurs favoris. Pour le moment, ils se bousculaient encore dans la cohue à la sortie de la salle. Abordant le sergent de police, Pardo lui décrivit Margherita et lui demanda s'il l'avait vue. « Non, répondit le sergent, je n'ai vu personne. » Garcia revint au théâtre où, suivant sa déclaration, il fut surpris de trouver Ignacio Reyes auprès de l'habilleuse. On l'avait admis quelques secondes avant par la porte de fer. « Je n'ai pas fait le tour par la porte des artistes, » s'écria le jeune homme. « Vous n'auriez donc pu me voir plus tôt. » Pardo en convint. « Un individu que j'ai pris pour un messager de vous, seigneur, est venu me dire que vous désiriez causer à la sortie avec la seigneura. » À ces mots, l'inquiétude, qui depuis un instant ne cessait de croître, atteignit son comble. On manda l'administrateur du théâtre, on fit chercher Charles Landau, on visita les loges, on explora tout le bâtiment. Nulle part on ne découvrit une trace de la jeune cantatrice, ni un fil de son manteau argenté. Margarita, conclut Landau d'une voix désespérée, a disparu non pas seulement du théâtre, mais du monde. Franchement, j'étais effaré. Je n'ajoutais aucune foi à l'histoire du concierge. Je connaissais trop Mazagan et sa tourbe de gens louches, d'aigres fins, de négriers, de meurtriers. Ignacio Reyes attribue le coup à son père. Il a raison, répondis-je. J'avais eu de prime abord la même idée que Landau. Après avoir partout proclamé qu'il préférait la mort de son fils à une mésalliance, Heriberto n'était pas homme à s'en dédire. Riche et puissant, il savait ne pas devoir soulever de scrupules chez les autorités s'il recourait à leurs bons offices. Il y avait recouru. Sans cela, comment expliquer que le sergent de police n'eût vu personne? Et qu'avait-il, en tout cas, à surveiller une petite rue déserte? Je me levai. « Veuillez, monsieur Landau, attendre ici que je me sois habillé décemment. Puis nous irons chez le commandant de place. Peut-être ne sera-t-il pas trop tard. » Mais Landau m'arrêta. « Monsieur le consul, vous ne pouvez intervenir officiellement dans cette affaire. Ce serait vous exposer à bien des ennuis, et selon toute apparence, à bien des humiliations. Margarita Sabani n'est pas citoyenne des États-Unis. Elle est du pays même où nous sommes, de l'Ensenada. Sachez que de son vrai nom, elle s'appelle Pilar de Hoyos. » Cette révélation me laissa stupide. Je crois bien que je vacillais sur mes jambes, comme un boxeur étourdi par un mauvais coup. « La fille d'Anton de Hoyos ? » demandai-je enfin. « Oui, de Hoyos, réfugié à Los Angeles. » Ignacio le savait, sans nul doute. Et sans nul doute, il l'avait dit à son père. Landau ne me répondit pas, mais son silence valait une réponse. Le sang des Hoyos était d'aussi bon sang espagnol que celui des Reyes. Certainement Ignacio n'avait fait état auprès de son père. Le tragique événement s'éclairait. Tout à la fois, le riche Heriberto était satisfait dans son orgueil intraitable, et Anton de Hoyos, le fugitif, le flétri, était puni comme jamais homme ne l'avait été au monde. Quant à la jeune femme, si belle, si adorablement heureuse, on n'avait pas même pour elle une pensée de pitié. On l'enlevait en plein triomphe pour la plonger dans des horreurs indicibles. Elle n'était qu'une pièce de l'échiquier, elle ne comptait pas. La même conviction affreuse avait pris possession du petit impresario juif et moi, et elle nous bouleversait au point de nous laisser sans parole. Il se mit à pleurer, sans hâte, en se reprochant amèrement d'avoir jamais franchi la frontière de l'Ensenada. « Peut-être Ignacio les aura-t-il retrouvés ?» hasardai-je. Mais je ne le croyais pas, Landau non plus. Il m'a promis de la ramener ici dans le cas où il la retrouverait. Il pensait que vous pourriez leur donner asile. » Landau regarda la pendule sur la cheminée. « Déjà plus de 4 heures, rien à faire. » Il se leva, sa main esquissa un lamentable geste de résignation. Mais je n'entendais pas me résigner si vite. Une jeune femme enlevée au beau milieu d'une ville pour satisfaire l'orgueil de race d'un vieillard et les rancunes d'un gouvernement, non, de telles choses ne devaient ni ne pouvaient être, elle ne serait pas. « Attendez un peu, » dis-je. Et déambulant d'un côté à l'autre, je crus m'aviser d'un expédient. « J'aurai un motif d'intervenir, » dis-je. « Le costume du chevalier à la rose vous appartient, n'est-ce pas? Il est votre propriété personnelle. Pourquoi ne pas tirer parti du fait que l'enlèvement de Pilar de Hoyos s'est accompli à la faveur de ce costume? Cela m'est possible. Mais pas tout de suite, pas cette nuit. » Landau avait raison. Et dès le lendemain matin, mon prétexte allait m'échapper. À 10 heures, en effet, le costume, bien plié, bien empaqueté, était déposé au théâtre, à la porte des artistes. Imaginez-vous rien de plus damnablement, de plus subtilement féroce? Ainsi, Anton de Hoyos était informé au plus juste de ce qui arrivait. On ne laissait pas un vêtement à Pilar. C'était dire à quel destin tragique, et plus que tragique, infâme, on vouait la jeune fille. Entre-temps, Ignacio de Reyes avait lui aussi disparu. À 4 jours de là, le soir, vers 9 heures, j'entendis toquer prudemment à la porte de ma bibliothèque. Je courus ouvrir. Ignacio était sur le seuil. Derrière lui se tenait un homme plus âgé et de moins haute taille. « Bon Dieu !» murmurai-je, « entrez vite !» L'homme de moins haute taille était Anton de Hoyos. Je les fis entrer tous deux et donnai un tour de clé à la porte. Ils avaient la mine hagarde, les joues non rasées. Leur costume en désordre était tout blanc de poussière. Leurs yeux rougis accusaient le manque de sommeil. Ma consternation ne connaissait pas de bornes. « Vous ici, seigneur Anton ? » m'écriai-je. « Mais vous êtes fou !» Cette algarade dut lui paraître indigne de réponse. Anton la repoussa de la main. Et la dernière fois que j'avais vu cet homme, il tremblait d'épouvante sous ses couvertures. Ce fut Ignacio qui parla. Je ne l'avais vu qu'une seule fois auparavant, et j'ignorais le son de sa voix. Cependant, à l'entendre, il me sembla que nous ne fussions séparés depuis à peine une demi-heure. « Nous savons maintenant, » me dit-il, « où est Margherita ?» Il avait la voix rauque, la gorge desséchée par le voyage. Je lui préparai une boisson qu'il absorba d'un coup, puis il reprit en phrases brèves et heurtées. « Voyez-vous, je me trouvais sans argent cette nuit-là. J'essayais d'en emprunter, mais tout le monde avait peur de mon père. Alors je passai la frontière avant le matin, avant qu'on ne m'arrêtât. J'avais juste de quoi me payer le train jusqu'à Los Angeles. Et le soir même, je réunis 6 000 $, interrompit Anton. J'en ai encore 5 000. 5 000 $ américains, insista Ignacio. Ils doivent suffire, car nous sommes au fait de tout. J'avais en partant chargé quelques amis de procéder à une enquête. Un homme avait tout vu, d'une fenêtre non éclairée sise en face de la porte réservée aux artistes. Il n'osait ouvrir la bouche. Heureusement, ajouta le jeune homme en se tournant vers Anton, vos dollars. 500, précisa Anton. La lui ont ouverte tout à l'heure. Donc, poursuivit Ignacio, cet homme avait vu s'arrêter devant la porte des artistes une auto fermée, tout feu éteint. Le sergent de police en station sur le bord opposé de la chaussée parut ne rien remarquer. Le concierge était comme en sentinelle sur le pas de la porte. 2 hommes, dont ni l'un ni l'autre ne portaient d'uniforme, sortirent de l'auto. L'un d'eux parla au concierge, qui tout de suite rentra dans le théâtre. Puis, sans fermer la voiture, tous les deux allèrent se placer contre le mur de l'édifice, chacun d'un côté de la porte et tâchant de se faire tout petit. Bientôt après, un jeune garçon sur les épaules de qui flottait un manteau scintillant s'élançait dans la rue, qu'il parcourut du regard avec un désappointement visible. Les 2 hommes l'assaillirent par derrière, et il se mit à pousser des cris, 2 grands cris aigus, des cris de femme. Mais l'un des agresseurs le fit taire en le bâillonnant, et pendant qu'il lui liait les bras sur les côtés, l'autre lui entravait les jambes. On le jeta sur les coussins de l'auto, les 2 hommes sautèrent sur leur siège, la voiture démarra à toute vitesse. Le sergent de police, durant cette scène, n'avait pas fait un mouvement. Bien entendu, il était là pour voir si tout se passait en règle, conclut Ignacio avec le plus triste sourire qu'ait jamais contracté une face humaine. Le jeune garçon était Margherita. Mais votre témoin n'a pu suivre la voiture ? Objectai-je. Non. C'est une autre personne qui vit s'arrêter la voiture, et quelque chose ou quelqu'un en être transporté vivement dans une maison. Ignacio me nomma la rue, qui était une rue sordide dans le quartier malfamé de la ville, et me désigna la maison, dont le numéro servait suffisamment d'enseigne. Puis il se dressa d'un jet. « Et maintenant, dit-il, nous allons, avec notre argent, chez le commandant de place. » Anton de Hoyos s'est élevé à son tour et prenait son chapeau. « Quoi, vous aussi ? » me récriai-je. « Oui. » Je compris à son air l'inutilité de le raisonner. « Très bien, dis-je, je vous accompagne. Je puis à tout événement obtenir que le commandant vous reçoive. » Le colonel commandant ne fit point, au reste, difficulté de nous recevoir. On nous introduisit dans son cabinet, où il nous rejoignit au bout de quelques minutes. Il était grand, brun, avec une moustache morne et des manières charmantes. « Seigneur consul, me dit-il en me serrant la main, et vous, seigneur Ignacio ? Ah, je vois que vous amenez avec vous un ami. »« Anton de Hoyos, répondit Anton lui-même. Le colonel clignota des yeux, mais instantanément il reprit son aise. « Il y eut un temps, seigneur, où vous ne nous approuviez pas en tout. Mais, ajouta-t-il avec un geste amical, c'est de la vieille histoire. et nous ayant priés de nous asseoir, il nous demanda en quoi il pouvait nous servir. J'admirai Ignacio. Il ne parla ni de lui, ni de son père, ni du témoin qui avait tout vu de la fenêtre obscure, ni du sergent de police. Il s'en tint au fait que Pilar de Hoyos avait disparu, qu'on la détenait dans une maison dont il donna l'adresse, et ne s'en prit de rien à personne qu'à la racaille attirée par une ville comme Mazagan. Le colonel commandant s'était peu à peu renfrogné en écoutant Ignacio. Il dit enfin d'un ton grave « Je vais te donner un ordre ». Il quitta brusquement la pièce. Quand il fut de retour, « C'est une affaire abominable, » nous dit-il. « Mieux vaudra pour nous tous, mis à part le seigneur Pitcham, qu'elle ne concerne point, mieux vaudra surtout pour la seigneura qu'il en résulte le moins de scandale possible. On va tranquillement cerner la maison. Défense à quiconque d'y pénétrer ni d'en sortir. Je veillerai moi-même à l'exécution de mes ordres, et dès que j'aurai toutes les issues bien gardées. » Il se tourna vers Anton et Ignacio. « J'irai, messieurs, vous prendre à votre hôtel. Nous perquisitionnerons ensemble. » Ignacio se renversa sur sa chaise, les yeux clos. Il succombait à la fatigue de ces 4 derniers jours. Lui qui avait su conter l'affreuse histoire avec le sang-froid d'un homme de loi, il n'arriva pas à bégayer le plus pauvre mot de remerciement. Anton de Hoyos tira d'une poche son portefeuille, que gonflait la grosse liasse des billets à dos jaune. « Il va y avoir des frais, seigneur colonel, » commença-t-il. Le colonel l'arrêta. « Il n'y aura qu'un frais. Rempochez vos billets, mon ami. Je vous donne rendez-vous à votre hôtel dans une heure. » Il reconduisit les deux hommes, puis il revint à moi, et d'un air anxieux. « Seigneur consul, pareille affaire ne peut se produire que dans une ville comme la nôtre, refuge de toute la pègre internationale. J'espère que vous ne nous en blâmerez pas. » Je protestai que je ne blâmais personne. Le colonel parut grandement soulagé. Il me serra la main. Je le laissai à ses occupations et rentrai chez moi. Mais je me sentais inquiet. Je ne comprenais pas que le colonel eût refusé les billets. Cela tenait du prodige. Ignacio et Anton n'arrivèrent jamais à leur hôtel. Ils rencontrèrent, chemin faisant, un détachement de soldats commandé par un capitaine. Conduits dans une caserne, ils y furent dépouillés de tout, sauf de leurs vêtements, et mis en cellule. À minuit et demi, le capitaine vint les chercher. Il avait ordre, dit-il, de les transférer dans la petite ville de Cristobal, à 40 000 de là dans la montagne. Leur départ devait s'effectuer sur l'heure. On ne leur donnait à emporter ni vivres ni couverture, et le fait est que, comme vous allez voir, c'eût été pour eux une charge inutile. La loi de fuite allait les exempter de tout besoin. Une voiture les mena jusqu'au faubourg de la ville. Là, ils mirent pied à terre pour le reste du trajet. La nuit était froide. Aux premières clartés de l'aube, le capitaine fit faire halte à sa troupe au milieu d'un pays désolé. Pas d'endroit plus propice pour justifier la ley des fougas, car à 300 mètres plus loin, courait, parallèlement au chemin où l'on se trouvait, la route frontière. Quel prisonnier n'eût profité d'une pareille aubaine? Ignacio en profita sitôt qu'il vit s'arrêter l'escorte. 30 balles tirées dans son dos l'étendirent raide mort. Anton, lui, ne bougea pas, car il ne tenait pas à vivre. Mais comme le pistolet du capitaine se braquait sur lui, instinctivement il se détourna. La balle perça son veston, érafla sa poitrine, et l'étourdit plus qu'elle ne le blessa. Il tomba sur le sol. Le capitaine, debout à ses pieds, lui tira une deuxième balle, cette fois à la tête. La tête d'Anton était penchée en arrière. Le projectile dévia, lui ensanglantant le visage, sans lui faire de blessure mortelle. Quand il revint à lui, le soleil était déjà haut. Il se traîna péniblement jusqu'à la route. Il l'atteignit juste à point, car au moment de s'y évanouir sur l'un des bas-côtés, il eut le temps de voir une troupe de corvées munies de bêches s'avancer sur le chemin venant de Mazagan. Telle est l'histoire que me dit George Pisham sur la rivière Magdalena. Je débarquai à Calamar, d'où je me rendis par le train à Carthagène pour y prendre un steamer qui porte le fruit à New York. Un an plus tard, appelé à Los Angeles par des questions d'intérêt, j'y retrouvai Anton de Hoyos. Une cicatrice partant de l'un des sourcils creusait un sillon de bas en haut, le long de son front, jusque dans la masse de ses cheveux blancs toujours coupés en brosse. Il continuait de mener son affaire d'imprimerie qui prospérait. Mais c'était un homme brisé, secret, avec qui toute conversation devenait très vite difficile. Et ses yeux semblaient couver une éternelle horreur. Ainsi s'achève La loi de fuite par Alfred Edward Woodley Mason.